Ils sont entrepreneurs d'avenir. Le réseau des entrepreneurs qui ont décidé de faire évoluer l'entreprise durablement. Les assurances Generali, mais aussi le centre des réseaux Entreprendre, le nouveau mouvement des entrepreneurs sociaux, Ashoka, l'AFNOR, France Initiative, Max Avelar, la Confédération Générale des SCOP et 300 entreprises telles l'AFUMA ou encore Cineo les ont déjà rejoints. Pascal Marcadji s'est entretenu avec Jacques Huybrecht, par ailleurs directeur de l'entreprise CHK.
Entrepreneur d'avenir, vous avez géographiquement tous les Capignons sur rue. Depuis combien de temps est-ce que vous existez ?
Entrepreneur d'avenir est une dynamique qui a été lancée officiellement en juin 2009. À l'Assemblée nationale, exactement à l'Assemblée nationale, à l'occasion donc de la première brique à l'édifice que nous avons lancée, qui est le Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui s'est effectivement déroulé à l'Assemblée nationale, qui a réuni un peu plus de 200 des premiers entrepreneurs d'avenir à ce moment-là, à cette époque-là, et un millier de personnes qui étaient présentes par ailleurs. Donc officiellement, ça a été lancé donc à l'Assemblée. L'ensemble des entrepreneurs ont signé la première version du manifeste des entrepreneurs d'avenir. Depuis, il y a une charte qui a été élaborée d'ailleurs par les entrepreneurs d'avenir eux-mêmes, à laquelle en tout entrepreneur d'avenir qui veut rentrer dans la dynamique signe.
L'Assemblée nationale, c'est un symbole fort.
Oui, bien évidemment, et c'était tout à fait volontaire, puisque l'idée, il y en a plusieurs, mais il y en a une fondamentale qui est de dire si on veut changer l'économie, si on veut changer la manière d'entreprendre, il faut changer l'écosystème, que l'écosystème, il est bien évidemment économique, c'est-à-dire qu'il faut changer le comportement des entreprises, mais pas que les entreprises, tout un tas de parties prenantes, dont bien évidemment l'univers législatif fait partie. Je donne un exemple. Là, on travaille sur les questions de marché public et de responsabilité sociale des entreprises. Il y a un code des marchés publics qu'il faudra probablement modifier à terme, qui a des conséquences européennes. Si on veut vraiment introduire dans les marchés publics des clauses de responsabilité sociale des entreprises, il faut modifier la législation. Voilà. Et c'est pareil sur le Grenelle, et c'est pareil sur tout un tas de sujets. Donc l'idée d'être sur le territoire politique, démocratique, c'était une volonté tout à fait délibérée que de créer des liens entre des entrepreneurs qui pensent que l'avenir est un peu autrement que ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années, et le politique qui doit favoriser et en tout cas créer les conditions d'un écosystème de développement des entreprises responsables.
Le premier levier aujourd'hui de ce changement, c'est l'entreprise avant le politique.
Oui, c'est l'entreprise, puisque bien évidemment c'est à tout dirigeant de comprendre qu'on a basculé dans une autre époque, où les entreprises sont des acteurs globaux, pas simplement des acteurs économiques, que leur activité, leur action a un impact à la fois bien évidemment social, les fournisseurs, les clients, les parties prenantes de l'entreprise, et l'entreprise a un impact sociétal, c'est-à-dire que par son action, elle oriente un certain nombre d'évolutions de la société. Donc l'entreprise ne peut pas rester cantonnée à ce pourquoi on pense qu'elle est, c'est-à-dire créatrice de valeurs uniquement économiques. Elle est créatrice de valeurs globales, tout court. Il faut que les dirigeants d'entreprise donc rentrent dans cette ère d'une entreprise plus sociétale.
De façon cynique, en fait, on peut dire aujourd'hui le modèle que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui est un modèle qui est caduque, hein, économiquement.
Oui, moi je le pense. On est encore peu à le partager vraiment, en tout cas à le ressentir vraiment dans le monde économique et dans le monde des entreprises et des PME en particulier. On est rentré dans un autre monde où il faut réinventer l'entreprise, il faut repenser la création de richesse, il faut repenser les instruments de mesure de la richesse, comme on le fait d'ailleurs et comme on a commencé à le faire dans le cadre de la mesure des grands agrégats de richesse nationale. Il faut que l'entreprise se repense.
Par quoi est-ce qu'il faut commencer en fait?
Il faut commencer par les entrepreneurs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a lancé Entrepreneur d'avenir. C'est de dire que l'entreprise est pilotée par des dirigeants ou des dirigeantes qui ont entre les mains le destin de leur entreprise. Ils sont pas seuls, parce que les entrepreneurs sont pas forcément les actionnaires. Donc en fait, c'est un couple, c'est plus qu'un couple, mais en l'occurrence, si on veut vraiment changer les choses, ça passe par l'entrepreneur et par l'actionnaire. C'est ce couple mythique, entre guillemets. Si l'entrepreneur change et que l'actionnaire ne change pas, ça va pas changer grand-chose. En revanche, si l'entrepreneur change et qu'il amène avec lui ses actionnaires, ses partenaires financiers, qu'ils soient individuels, des fonds, des banques, etc., alors ça pourra changer vraiment.
Jusqu'à présent, c'est avec l'argent de l'actionnaire qu'on peut faire tourner les entreprises.
La crise financière, la crise écologique a commencé à sensibiliser légèrement les actionnaires. Au niveau des grands groupes, au niveau des entreprises cotées, il y a aujourd'hui, de la part du monde financier, des investisseurs, il commence à y avoir une prise de conscience que les entreprises de demain vont devoir reporter sur leurs engagements sociaux, écologiques, sociétaux, etc. ta question, c'est le non-côté, c'est-à-dire même si le côté reste un problème fondamental, hein, on voit bien qu'il y a des résistances, bien évidemment, notamment là, c'est dans la négociation sur le Grenelle 2, sur un certain nombre d'articles, il y a une volonté, notamment du MEDEF, du patronat classique, de limiter les obligations, les contraintes de reporting, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas les limiter, enfin, il faut les développer, qu'elles soient supportables pour les entreprises, mais on a, en tant qu'entrepreneur, à reporter sur sa comptabilité, sur ses résultats économiques. Donc pourquoi ne pas avoir à reporter sur ses engagements sociaux, ses engagements écologiques, etc. Bon, en revanche, la question des actionnaires, elle est complexe parce que bien évidemment, l'actionnaire est par définition extrêmement hétérogène. Personne privée, ça peut être un fonds, ça peut être une banque, ça peut être une entreprise qui elle-même est actionnaire. Donc c'est une mosaïque extrêmement complexe. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est créer un cadre, je ne sais pas si ça doit aller jusqu'au juridique, mais un cadre dans lequel tout actionnaire devrait se situer. C'est-à-dire qu'après tout, on demande à des dirigeants d'être responsables. On devrait pouvoir demander à un actionnaire qui rentre dans une entreprise d'avoir un certain nombre de responsabilités, de droits et de devoirs. C'est ça qu'il faudrait obtenir. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est ce sur quoi nous, on travaille avec Entrepreneurs d'avenir. On a constitué un groupe de travail qui, j'espère, va s'élargir à beaucoup de gens pour dire quel serait le cadre dans lequel un actionnaire devrait rentrer et devrait se conformer pour être un actionnaire responsable. C'est à imaginer. On est en train d'y travailler.
Il faut réinventer d'autres paramètres et ça ne peut pas être qu'en France, sinon ça ne marche pas.
Oui, alors ça, bien sûr, c'est ce que j'entends beaucoup. Quand on discute sur de ces enjeux en France, on me dit qu'effectivement, c'est aussi au niveau européen, c'est aussi au niveau international. Bon, moi, je pense qu'il faut que chaque pays travaille sur ces enjeux-là. Il y a un indicateur qui va arriver, qui s'appelle ISO 26000, donc qui va arriver en novembre, officiellement en novembre en France, qui est une traçabilité d'une certaine manière, une évaluation de la responsabilité des entreprises, qui est une norme internationale, sur laquelle plus d'une centaine de pays, me semble-t-il, se sont mis d'accord pour dire et reconnaître que sur un certain nombre d'enjeux, c'était ça la responsabilité sociale des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça va être intéressant puisque à la fin de l'année, il y a une norme internationale que toute entreprise pourra s'appliquer à travers un diagnostic, une évaluation, une progression. Donc ça, c'est quand même une grande évolution. C'est intéressant. Alors ça va pas concerner, me semble-t-il, toutes les entreprises parce que il y a des problèmes de taille, de coût, mais c'est un progrès important.
Revenons à l'entrepreneur d'avenir. En fait, vous êtes un vivier pour faire avancer le mouvement.
Oui, alors on est sur plusieurs pieds. En tout cas, la dynamique semble avancer sur plusieurs pieds. Il y a effectivement, il y a d'abord des entrepreneurs. Hein. La première partie, enfin la première étape, ça a été de réunir. Alors aujourd'hui, il y a presque 300 entrepreneurs d'avenir.
Est-ce que vous avez des noms d'entreprises que vous pouvez citer ?
Cineo, SOS, La Fuma, Voyageurs du Monde, dans l'entrepreneuriat social ou dans l'entrepreneuriat classique, Millet, Volutique, qui sont des PME. Il y a beaucoup de PME, bien évidemment. Des entreprises de 2 à 3 ou 4 000 salariés. On a, dans une première phase, réuni ces entrepreneurs pour essayer de comprendre pourquoi ils s'engageaient, sur quoi ils s'engageaient et ce qu'ils avaient envie de voir progresser. La deuxième étape qui est en train de se structurer petit à petit, c'est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler laboratoire d'idées. C'est de dire, voilà, de la réflexion de ces entrepreneurs naît des thématiques et des volontés d'agir. Des volontés d'agir dans son entreprise ou des volontés d'agir beaucoup plus globalement auprès du monde économique ou du monde politique. Donc comment on transforme cette volonté d'agir et comment on porte cette volonté d'agir auprès des responsables politiques. Voilà, donc ça c'est un rôle qu'on va essayer d'assumer, qui n'est pas évident parce que dans le paysage du patronat français, il y a des partenaires sociaux, il y a, voilà, il y a tout un tas d'organisations qui existent. Donc on va essayer de l'assumer de manière nouvelle, un peu originale, en constituant ce réseau, qui est un réseau informel par ailleurs. Hein. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'association, il n'y a pas eu pour l'instant la création de cette structure. On va essayer de l'assumer le mieux possible, de faire passer les informations, les actions auprès des responsables politiques.
Et la croissance dans tout ça, est-ce qu'on peut retrouver un taux de croissance comme on a eu il y a 10 ans par exemple là.
C'est un sujet de fond, on a un groupe qui travaille là-dessus. Bien évidemment, si on veut faire mieux, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire moins ? Je suis fondamentalement convaincu que c'est pas faire moins, mais c'est faire effectivement mieux. Aujourd'hui, l'évaluation du mieux, c'est une évaluation quantitative du mieux. La marque aujourd'hui de croissance, c'est l'augmentation du PIB. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la commission Stiglitz s'est mise en place, c'est de dire, est-ce qu'on peut évaluer le mieux uniquement quantitativement et uniquement à l'aune des agrégats économiques. Voilà. C'est ça qu'il va falloir introduire, c'est de dire que demain, on va calculer la croissance globale sur des engagements beaucoup plus larges que les engagements économiques et sur la croissance économique. Voilà. Donc peut-être qu'on fera moins quantitativement, mais on fera mieux écologiquement, socialement, sociétalement. Donc c'est ça qu'il faut arriver à évaluer. Ça va être le grand défi. C'est pas dire on va décroître, c'est dire on va croître autrement et surtout on va mesurer autrement la croissance.
Le bien-être de l'entrepreneur dans tout ça, vous y avez songé ?
L'entrepreneur d'avenir, j'entends bien dans entrepreneur, il y a homme ou femme, hein, doit penser à son équilibre. Le fait de diriger une entreprise est facteur de déséquilibre. D'abord, c'est une pression énorme. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'engagement physique et psychologique. Donc il y a une résistance à avoir face au stress, face aux engagements, etc. On a une responsabilité très forte. Il faut être en forme, c'est très important. Je dis ça, ça peut paraître bizarre, mais il n'y a pas de permis d'entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. C'est la liberté d'entreprise. C'est très beau sur le papier. Il faut que l'entrepreneur trouve son équilibre à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Ça, c'est très important. Par exemple, dans une organisation comme le CJD, qui est une organisation de dirigeants qui est très avancée sur ces enjeux-là, c'est un sujet qui est très souvent abordé. Comment je vais essayer d'arbitrer entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle? Et ça, c'est pas simplement pour les salariés, c'est aussi pour les dirigeants.